Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipée sauvage, plus qu'une émission, j'ai envie de dire, et ça ferait d'ailleurs un beau titre de film, un esprit de famille. Une famille recomposée, certes, dysfonctionnelle, c'est vrai, mais ravie de vous accueillir aujourd'hui pour la centième, oui, la centième déjà de l'équipée sauvage dont Pierre Arditi, un de nos tout premiers invités, avait déclaré
« Retenez bien ce nom, vous ne l'entendrez plus jamais ».
L'occasion de remercier tous nos invités ce soir. Éric Emmanuel Schmitt, qui était ressorti de notre studio de son propre aveu.
Chaud comme une baraque à frites, mais vraiment.
Michel Blanc et sa joie communicative.
C'est la saison, hein. Si on n'a pas une gastro maintenant, on passe à côté d'un grand truc. Hein. C'est comme les boules sur le sapin.
Jérôme Commandeur, qui avait été admiratif du travail de nos journalistes.
C'est une belle profession d'escroc. Ils sont à touche-touche avec les garagistes. On les embrasse tous.
Des invités qui, à l'instar d'Elysée Moon, ont parfois été choqués du concept même de notre émission, cette compétition sans pitié entre les meilleurs journalistes d'Europe 1.
C'est atroce de se noter entre amis.
On n'est pas amis.
Et non, on est juste collègues. C'est ça notre secret. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Est-ce que vous êtes émue en regardant dans le rétroviseur, Eva?
Un petit peu, ouais.
Un chouïa.
Ouais.
Hein.
Jean, mais j'ai l'impression surtout qu'on a commencé il y a 5 siècles.
Moi aussi. Voilà. Tout à l'heure, vous nous direz Eva ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir à la télé sur les écrans. Mais d'abord, accueillons notre invité d'honneur pour cette centième. Tout simplement un des plus grands acteurs français. Si j'avais la plume alerte et inventive d'un stagiaire à Télé 7 jours, je dirais qu'il est un grand râleur au cœur tendre, mais qu'il est beaucoup plus que ça. Bonjour François Berléand.
Bonjour.
Double actualité pour vous, un film, L'Esprit de Famille, qui sort la semaine prochaine, et une pièce, Par le bout du nez, le mois prochain au Théâtre Antoine à Paris. Alors, ça fait un moment, François Berléand, que vous êtes en haut de l'affiche. Est-ce qu'on finit par s'y habituer, ou bien tous les jours, vous vous dites « Waouh ». Parce que vous avez connu quand même le succès relativement sur le tard.
Oui, mais j'ai toujours travaillé. Hein, c'est-à-dire que j'étais dans le théâtre subventionné. Et ensuite, quand j'ai franchi le Rubicon, le théâtre privé m'a accueilli avec d'abord un petit rôle et puis ensuite des rôles de plus en plus importants jusqu'à des rôles principaux. Mais qui a coïncidé avec le fait que j'avais des rôles de plus en plus importants au cinéma aussi.
Et il y a une belle histoire sur ce film, L'Esprit de Famille, c'est que le réalisateur Éric Bénard, son père, Jacques Bénard, vous avez bossé avec lui, c'est même lui qui vous a un peu donné votre chance au milieu des années 80 en télévision.
Mais c'est pas qu'il m'a donné ma chance, parce que, en fin de compte, j'avais pas des rôles très importants, mais il m'a donné confiance. Et alors c'était assez étrange parce que j'avais fait un film de Pierre Jolivet qui s'appelait Le Complexe du Kangourou, qui était sorti dans des conditions malheureusement un peu épouvantables parce que c'était les attentats de Tati. Mais il se trouve que lui avait vu une projection avant que le film ne sorte et il m'a dit « Voilà, je vais vous proposer un rôle. » Et je pense que c'est la dernière fois qu'on va vous proposer un rôle aussi peu conséquent, parce que c'était une demi-journée de tournage. Mais voilà, lisez la scène et si ça vous plaît, je serai le plus heureux des hommes si vous acceptiez. Donc j'ai accepté et puis voilà.
Et aujourd'hui, vous êtes dans le film d'Éric Bénard, le fils de ce Jacques Bénard. On va parler du film L'Esprit de Famille qui sort mercredi prochain. Juste le temps, François, de vous présenter nos deux premiers journalistes en compétition cet après-midi. Chacun tentera de décrocher cette rutilante couronne de chroniqueur du jour. À ma gauche, elle est notre expert international, Sophie Larmoyer, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La dernière fois que quelqu'un avait cité Goebbels dans un discours au Brésil, c'était OSS 117 dans Rio ne répond plus.
Oh bien sûr, je vois bien ce qui vous plaît dans le nazisme. D'ailleurs, qui pourrait vous jeter la pierre?
Alors, quand c'est Jean Dujardin dans SS, on rigole, mais quand c'est le secrétaire d'État à la culture qui cite Goebbels, forcément, on rigole un peu moins.
On rigole beaucoup moins, et oui, il a démissionné, évidemment, parce que ça s'est entendu,
mais quand même,
ça s'est vu.
À ses côtés, François Berléand, vous serez certainement étonné d'apprendre, vu son dernier sujet, la plantation de slip, contenant des punchlines comme...
Un slip, c'est un slip.
Quel est l'actuel leader du championnat européen des meilleurs journalistes? Et oui, bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Mathieu, bonjour François Berléand, bonjour à tous.
Anne, vous êtes notre conscience verte, l'expert environnement d'Europe 1. Vous savez aussi que lorsqu'on tombe de cheval, il faut tout de suite remonter en selle. La dernière fois que vous avez tenté de nous parler du pôle Nord, ça s'était pas hyper bien passé, du point de vue buccal en tout cas, la restitution des mots avait été approximative.
Si, parce que maintenant, et surtout au pôle Nord. Parce que...
Oui, alors aujourd'hui, vous remettez le cap sur le Grand Nord, direction la Laponie.
Voilà, c'était un lundi, mais aujourd'hui on est mercredi.
Ça va
jeudi, jeudi.
Alors, je
vais vous parler d'acteurs peut-être césarisables qui ont des poils, des sabots, des bois sur la tête. Ce sont des reines. Je vais vous parler d'un magnifique documentaire tourné en Laponie. Voilà, et je vais vous livrer quelques petits secrets de tournage.
Merci beaucoup Anne Le Gall. Le programme est donné, l'équipée sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
Pour cette centième, c'est donc François... Qu'est-ce qu'il y a? Déjà,
pardon.
Eva veut intervenir dans l'interview.
Je voulais
c'est
juste
incroyable.
Vous dire, est-ce que vous notez que pour François Berléand, oui. Il est face quand même à trois femmes, oui. Ce qui est plutôt rare.
Ça a été étudié ?
Non, ça... un petit peu peut-être, je sais pas.
Moi, je suis très heureux.
Vous êtes heureux, mais content.
Est-ce qu'on a le droit d'être heureux ou pas ? Parce que je ne sais plus maintenant avec MeToo.
Ah si, on a le droit d'être heureux.
On a quand même 1000 hommes de l'autre côté de la table. Hein. Oui, MeToo oblige, voilà. on fait gaffe. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour ce film qui sort mercredi prochain, L'Esprit de Famille. Mais surtout, alors vous avez une carrière incroyable, mais être l'invité de la 100e de l'Équipée Sauvage, ça j'imagine que c'est un tournant dans votre carrière.
Je pense. Et dans la vôtre aussi.
On l'espère. Alors le film, on va faire le pitch un petit peu quand même. Eva, on peut déjà dire que c'est un film qu'on a beaucoup aimé.
Ah, moi j'ai adoré, mais c'est ce que je disais à François Berléand juste avant de débuter l'émission, j'ai eu les larmes aux yeux du début jusqu'à la fin du film.
Ce à quoi François Berléand vous a répondu assez justement, oui mais attention, on rigole aussi.
Mais bien sûr.
Parce que n'allons pas dire à nos auditeurs qu'on chouine.
C'est extrêmement émouvant.
Voilà. Alors vous êtes le père d'Alexandre, interprété par Guillaume de Tonquédec. Alexandre est un écrivain déconnecté de la réalité, un peu lunaire, qui vit davantage avec les personnages de ses romans qu'avec sa propre famille. Il a même tendance à être un peu dur avec vous quand vous le perturbez dans son travail d'écriture. Et puis un jour, l'inévitable arrive, vous mourrez subitement, vous disparaissez. Enfin, pas pour tout le monde, pas pour Alexandre.
Voilà.
Vous revenez sous forme de fantôme.
Voilà. Enfin, c'est lui qui me convoque. Hein. Moi, je suis pas un fantôme, je viens pas le hanter. Hein. C'est lui qui a besoin de voir mon image et puis de communiquer. Puisque finalement, on n'a jamais communiqué ensemble du temps de mon vivant. Je crois que je suis le même père dans la vie que dans le film.
C'est-à-dire ?
C'est vrai ?
C'est-à-dire que je pars tout le temps par moi et par vous, du fait de mon métier. Je tourne au cinéma souvent des films en province ou même à l'étranger. Et puis au théâtre, voilà, je fais toutes les tournées des pièces dans lesquelles je joue.
Et ça, vos enfants vous le reprochent dans la vie ?
Ils me l'ont reproché. Les grands.
Les grands, oui. Les petites, pas encore.
Les petites, pas encore. Ça va venir. Ça va venir à l'adolescence. Ou pas. Peut-être que je serais mort avant. Vous voyez ? Là, je les entraîne.
Magnifique. Le titre du film pourrait être « Aimons-nous vivants ». Donc, oui, c'est un peu ça. Le message
du
film.
C'est sûr.
Il nous fait l'honneur de nous accompagner cet après-midi pour la 100e de l'Équipée Sauvage. François Berléand passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, mon film culte, Papy fait de la résistance, mais en vrai, donc en beaucoup moins drôle, ça se passe au Brésil, où le ministre de la Culture de l'impayable Bolsonaro a eu le bon goût de citer Goebbels dans un de ses discours. Alors il a été obligé de démissionner, Bolsonaro s'est fâché tout rouge.
On va finir par distribuer des petits bonbons au cyanure à tout le monde et il y aura moins de bruit, croyez-moi.
Mais il n'empêche que l'offensive culturelle de Jair Bolsonaro inquiète beaucoup. Sophie Larmoyer a enquêté pour nous.
Europe 1, 16h-18h, L'équipée sauvage
sur Europe 1,
16h-18h,
Mathieu Noël.
Plaisir de la découverte, ivresse de la gaudriole, vous écoutez la 100e édition de L'équipée sauvage. L'émission qui plaît tant aux invités que souvent, au beau milieu, ils s'exclament comme Christophe Onodibio.
C'est terminé ?
Non, c'est la moitié de l'émission.
Ah oui !
Bon bah très bien.
Aujourd'hui, pour fêter cette 100e, c'est François Berléand qui nous accompagne. François, vous serez à l'affiche mercredi prochain.
Vous lui faites peur.
Ça lui parle déjà.
Vous lui faites peur à François.
C'est formidable. C'est drôle.
François, vous serez à l'affiche mercredi prochain de L'Esprit de Famille aux côtés de Guillaume de Tonquédec. On continue d'en parler, mais l'heure est venue d'écouter notre première concurrente du jour, et pas des moindres, puisque Sophie Lamoyer est l'expert géopolitique d'Europe 1. Et Sophie, avec vous aujourd'hui, nous mettons le cap sur le Brésil. Oui, mettons le cap sur le Brésil, mais avec les moyens techniques d'Europe 1 qui sont pas terribly new, comme on dit là-bas. Alors Sophie, oui, un ministre a un peu cité Goebbels dans un discours, mais il a été viré. Preuve que Bolsonaro n'est pas complètement fou quand même.
Oui, enfin franchement, on se demande comment il a imaginé que ça pourrait passer. Ouais. Une allocution a priori banale, il voulait annoncer la création d'un prix pour les arts brésiliens. Donc voilà, il fait une petite allocution.
Olá, meus amigos. Eu sou Roberto Alvim. Secrétaire spécial.
Il se présente, c'est une allocution diffusée sur les réseaux sociaux, à peu près 6 minutes d'intervention. Le ton est assez solennel,
et
emphatique.
La musique, c'est vous qui l'avez rajouté ou...
Non, vous allez voir. Ouais. Donc, il parle des valeurs de l'art liées au peuple brésilien. Il est filmé de face, il est assis derrière son bureau, encadré par une croix patriarcale et le drapeau du Brésil, un portrait du président. Il y a cette musique en fond, lyrique, c'est un opéra de Wagner. Et puis, Roberto Alvim a un look particulier. Les cheveux plaqués en arrière, strict, un regard d'acier. Il vit son texte. Hein. Alvim est dramaturge dans sa vie d'avant, avant d'être secrétaire dans ce gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro. Et en fait, il joue...
C'est comme s'il joue un rôle, en fait, dans
exactement,
cette vidéo.
C'est exactement ce qu'il fait. Les mots qu'il prononce sont donc empruntés à Joseph Goebbels, le chef de la propagande nazie. C'était des mots prononcés le 8 mai 33, alors qu'il avait été fraîchement nommé ministre du Reich à l'éducation du peuple et de la propagande. C'est quasiment du mot pour mot. Écoutez Roberto Alvim.
L'art brésilien de la prochaine décennie sera héroïque et national. Il sera doté d'une grande capacité d'investissement émotionnel et sera tout autant impératif car il est profondément lié aux aspirations urgentes de notre peuple, ou il ne sera pas.
Voilà, il évoque aussi la naissance de formes esthétiques puissantes favorisées par les vertus de la foi, de la loyauté, de l'autosacrifice, de la lutte contre le mal.
Alors, on imagine qu'il a essayé de se défendre devant le scandale que ça a provoqué. Comment il peut se justifier d'une inspiration puisée dans le Troisième Reich ?
Alors, il a prétendu qu'il ne savait pas que c'était du Goebbels, que son discours avait été rédigé à partir de notes, d'idées liées à l'art nationaliste, des idées soumises par ses assistants. Mais enfin, toute la mise en scène dit le contraire, son attitude, et puis cette musique de Wagner, vous savez, le compositeur préféré d'Hitler.
Alors, Jair Bolsonaro, on le sait, est issu de l'extrême droite. Il se méfie du monde de la culture ?
Ouais, c'est simple. Une des premières choses qu'il a faites en arrivant au pouvoir il y a un an, c'est de supprimer le ministère de la Culture. Il l'avait d'ailleurs annoncé dans son programme. C'est devenu un secrétariat d'État rattaché d'abord au ministère de la Citoyenneté et depuis quelques mois au ministère du Tourisme. Il se méfie parce que le monde culturel brésilien est foisonnant, est extrêmement dynamique, il est divers. Ouais. Et vous savez que l'extrême droite n'aime pas la diversité. Pour sa première année de gouvernement, elle a consciencieusement coupé les subventions de nombreux projets culturels, des festivals, des films, censurant d'ailleurs surtout ceux qui portaient sur des thématiques LGBT, au point d'ailleurs que le précédent secrétaire à la culture a claqué la porte au mois d'août en disant qu'il préférait être au chômage que d'applaudir à la censure.
Et Roberto Alvim, ce n'est pas le premier à démissionner, c'est un poste très mouvant, non ? Secrétaire d'État à la culture.
C'était le troisième secrétaire à la culture en un an. D'ailleurs, la prochaine, on l'a su hier, elle a 72 ans, c'est une ancienne actrice de telenovela, star dans les années 80. Donc Alvim, c'est le troisième. Il voulait, lui, créer une machine de guerre culturelle pour défendre la civilisation judéo-chrétienne contre sa destruction par des forces progressistes. Vous voyez le programme ?
Tout un projet, oui.
Voilà, dans le genre gratiné aussi, il y a le chef d'orchestre Dante Mantovani qui est nommé président de la Fondation Nationale des Arts. Il affirme que le rock active la drogue, qui active le sexe, qui active l'industrie de l'avortement, qui active le satanisme, CQFD. Donc vous voyez, on en sourit, on en plaisante,
mais
la réalité est extrêmement dure pour les artistes au Brésil. Comme le gouvernement de Bolsonaro n'arrive pas à mettre le monde culturel à son service, au service de cette pensée unique, il lui coupe les vivres, il essaye de le museler. Certains évoquent là-bas le début d'une époque de terreur culturelle. Donc c'est vraiment très sérieux.
Pas de tournée prévue au Brésil, François Berléand ?
Pas tout de suite.
On va réfléchir. Oui. On remercie Sophie Larmoyer. Votre chronique aura-t-elle intéressé notre invité François Berléand ? Il vous fera savoir sa réponse en temps et en heure. Anne Le Gall, un mot pour votre collègue après sa chronique sur le Brésil ?
Tu m'as donné envie d'acheter des billets de train.
Ah, c'est un miracle qu'on soit allé jusqu'à la centième. Europe 1. Nostalgique du dos à dos dans thé ou café, réjouissez-vous dans un instant notre séquence ventre avant. Une interview au plus proche de François Berléand, menée d'une main de maître par un journaliste avec lequel les stars se livrent comme jamais, révélant des scoops parfois inédits, comme il y a quelques semaines la cantatrice Nathalie Dessay qui me parlait de Claude Nougaro. Vous étiez fan depuis longtemps ?
Oui, depuis toujours.
Vous l'aviez rencontré ?
Oui, mon mari lui a même fait une daube.
François Berléand a-t-il croisé la route de Nougaro ? Sa femme lui a-t-elle fait une daube ? Ou bien plutôt une blanquette de veau ? Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur François Berléand, juste après The Clash, London Calling sur Europe 1. London Calling, c'était The Clash sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage spéciale centième. Et oui, les audiences ont augmenté, le budget son, non. L'équipée sauvage qui, en l'espace de quelques mois, a déjà validé plusieurs records au Guinness Book, notamment celui dont je ne suis pas peu fier, de la plus longue question jamais posée en interview proportionnellement à la réponse. Un record pour lequel je dis merci à Cédric Clapiche. Ils vivent dans Paris, sont un peu dépressifs, hein, on peut le dire. Lui peine à faire une rencontre amoureuse. Elle multiplie, au contraire, les rencontres foireuses sur les applis. C'est une belle histoire, mais c'est surtout, comme toujours avec vous, l'analyse d'une époque.
Oui.
Cédric Clapiche qui venait nous voir.
Vous avez François Berléand.
Mais vous me laissez. Faire une phrase, Eva ?
Ou est-ce que.
Non, si vous voulez prendre le contrôle de l'émission centième, peut-être on peut échanger de place. Vous voulez venir à ma place et je viens à la vôtre ?
Non.
Cédric Clapiche qui venait nous voir, disait Eva, pour un film dans lequel vous jouez, François Berléand. C'est deux mois. Et vous dites, j'ai entendu en interview, vous dites que c'est un film qui était formidablement proche du scénario que vous aviez lu et que ça, c'était assez rare. C'est rare les films qui sont fidèles au scénario que vous avez entre les mains.
Oui, parce qu'en général, on change le montage. Et puis, moi, c'était surtout dans ma tête, la projection que j'avais du film, mental, quand j'ai lu le scénario. Et quand j'ai vu le film, je me dis, c'est vrai que ça ressemble totalement à ce que j'ai lu. Et souvent, ce n'est pas le cas.
Est-ce que c'est le cas pour L'Esprit de Famille, qui sort mercredi prochain ?
Alors, c'est le cas et ce n'est pas le cas. La fabrication du film a été très particulière, parce que j'étais dans toutes les scènes. on filmait d'abord sans moi, et puis après, je pouvais apparaître, etc. Donc j'avais un texte bien précis à dire. Et puis, le metteur en scène, donc Éric Bénard, m'avait dit, tu sais, tout sera filmé, mais tu ne seras pas forcément monté.
Parce que, ah oui, donc vous ne pouvez pas savoir exactement ce que ça donnerait.
Il faut créer aussi du manque par rapport au fait que tu sois mort, ton absence. Donc, et donc, c'est vrai que je ne pouvais pas, du coup, imaginer totalement le film fini.
Dans le film, vous jouez donc un père décédé qui revient parler à son fils, joué par Guillaume de Tonquédec, et vous lui dites « Un jour, tu te réveilles, tes enfants n'ont plus besoin de toi, fini les câlins, fini le foot, c'est tout juste s'ils te supportent. » Vous êtes père, on le sait, de 4 enfants, 2 sont déjà grands, vos jumelles sont plus petites. C'est quelque chose dont vous avez conscience, ça, c'est cette phrase qui est un peu terrible, un peu... Enfin, en tant que parent, ça aime.
On a tous conscience de ça, parce que on a
Moi, pas encore, il a 7 ans.
Non,
mais il aime les câlins, il aime le foot.
On a tous été fils.
Ah oui, ça c'est vrai.
Donc
oui.
Il y a un moment donné où effectivement le câlin, ça suffit.
Ah oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié mon adolescence.
C'est bon, on se fabrique beaucoup contre aussi.
C'est vrai.
Donc, surtout les garçons se fabriquent évidemment contre leur père, ce qui est bien normal. Vous savez, c'est Oedipe, etc. Maintenant, je joue à un psychanalyste en ce moment. Donc, j'en ai dans le.
Non seulement vous voyez les psychanalystes, mais vous les jouez aussi
oui,
beaucoup.
Voilà,
donc,
c'est
on,
ça,
va,
c'est
on,
ça.
Va, on va en parler tout à l'heure.
Non, on ne parle pas
de
ça.
Si, on va en parler.
Non,
ça sera 100 euros. J'ai lu que vos parents étaient très stricts, François Berléand, que votre père commençait toutes ses phrases par non et vous avez rarement des compliments. Quand on a vécu ça, est-ce qu'on reproduit ou est-ce qu'on fait exactement l'inverse avec ses propres enfants? Vous êtes quel genre de père?
Ben, moi, je dis oui.
Vous dites oui?
Oui, je dis oui tout le temps dans ma vie.
Oui.
Comme c'était, mon père, c'était formidable parce que je disais, est-ce que tu peux me donner mon argent de poche? Non.
Non.
Et il sortait son portefeuille comme tu veux. Et
Oui.
Mais toujours, il commençait
ses phrases
par non. Et donc, du coup, moi, je commence toutes mes phrases par oui, ce qui me joue beaucoup de tours. Parce que on propose un scénario que je n'ai absolument pas envie de faire. Et fait, Et ça m'était arrivé notamment pour une pièce.
Vous avez joué une pièce, François Berléand, que vous ne cautionnez pas quelque part?
Du tout, je n'avais pas envie de la faire.
Mais c'était à vos tout débuts, je veux dire, à vos tout
débuts.
Non,
c'était pas du tout. Non. C'était
alors
pas
ça tombe bien, j'ai écrit une pièce. Et ben, sortez-la, alors on la relire.
Alors maintenant, ça y est. Maintenant que je fais une analyse, maintenant j'essaie de dire non.
Il sera un fantôme très loquace mercredi prochain dans le premier fantôme Pipelette de l'histoire du cinéma dans l'esprit de famille. Mercredi prochain en salle, François Berléand est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, pour nous amener en Laponie dans les coulisses d'un tournage extrême d'un film sélectionné au César, il fallait une experte du Grand Nord. Une pro. Une sorte de Jean-Louis Etienne au féminin. Bon, comme on l'a pas trouvé, on a pris Anne Le Gall qui passait par là en chantant...
Dans l'Antarctique, c'est le roi des phoques.
Voilà, quelqu'un qui connaît le générique de Bibi Fox ne peut pas être tout à fait incompétente pour parler du Grand Nord. A tout de suite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1, épisode 100. Comme dans Game of Thrones, des têtes vont tomber. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité arbitre du jour dont la voix ne comptera pas triple mais sextuple. Ainsi en ai-je décidé pour marquer cette 100e. François Berléand, vous me faites penser à Arnaud Lagardère quand il m'a confié les rênes du 16-18.
Du fun. Je t'en demande pas plus mais pas moins. Si tu m'emmerdes... Tu dégages.
Alors, François Berléand, c'est tout vous.
Ça, c'était moi. Oui.
C'est tout vous.
Dans mon idole.
Oui. Super film. C'est un peu mon idole, petite parenthèse.
Oui.
C'est le premier film où vous avez eu un grand rôle, en fait.
Non, parce que c'est. Non, j'en avais déjà fait.
Ah, vous dites
autres.
Non. Vous dites toujours oui, François Berléand.
Oui, bien joué.
Non,
j'avais fait 2 films avant avec des rôles principaux, mais qui n'ont pas eu l'accueil.
C'est le premier film qui a fonctionné en salle. Ça vous a lancé. Alors, vous êtes un immense comédien, mais vous auriez pu devenir aussi un éminent publicitaire. Hein, le roi de la com, avant d'être comédien, vous avez fait une école de commerce et vous avez été embauché dans une agence de pub. Alors ça, moi, personnellement, je l'ai découvert. Vous avez même été à l'origine de certains slogans, si je ne m'abuse.
Qui n'ont jamais été pris.
Oui,
c'est pour ça. Alors... Je suis à l'origine de certains slogans qui n'ont pas été pris. C'est particulier. Hein, pour
vous
ça que
vous en
fait...
avez en tête ou pas?
Bien sûr. C'est parce que j'en avais 3 énormes qui n'ont pas été pris. Mais il se trouve que on avait à faire les machines à laver Bosch. Et donc, moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça, la publicité, comme ça ce qui est. Et là, j'avais rien sur Bosch. Et puis, là, je vais dîner chez mes parents. Et puis, regarder la télé, il y avait la ligne de démarcation de Chabrol. Et à un moment donné, j'entends ma mère dire « Ah, c'est ça le Bosch !» Et écoute, ben voilà, c'est ça, c'est pour ça que je n'y arrivais pas aussi. Sale Bosch. Et oui, le mec, il fait une machine à laver, c'est ça. Et je me suis dit, il faut y aller. À l'époque, on pouvait faire beaucoup de l'humour sur.
On pouvait aller plus loin. Ouais.
Et mais pas juste. Il y avait un certain, jusqu'à un certain point, et malheureusement, j'avais dépassé.
C'était la limite.
Mais quand même, malgré tout. Et alors, j'avais trouvé. Donc, j'appelle mon maquettiste et je lui dis, écoute, tu fais une machine à laver kaki. Voilà. Et en lettres gothiques.
Non mets...
Oui, oui, carrément. Attention, les boches arrivent. Donc, très
bizarrement,
bon goût,
ça
très
bon
goût. Et ça n'a pas été pris, je ne sais pas pourquoi.
C'est
ça
vraiment dommage.
Mais sur ce, après j'ai eu Rexona.
Donc déodorant.
Là j'avais trouvé un déodorant, donc j'avais trouvé n'attendez pas que le besoin se fasse sentir.
Mais ça c'était excellent.
Bah, c'était excellent, mais ça n'a pas été pris. Et pourtant à l'époque,
c'était étonnant. Que,
et le troisième qui était là, du pur génie,
ouais.
C'était pour les bouillons cubes au poulet. J'avais trouvé, et mon cube c'est du poulet.
C'est un scandale que vous n'ayez pas été sélectionné,
ah oui,
François
là,
Bernard.
Là, contre,
un scandale.
Il
est aussi
ça, j'arrête.
grand communicant, mais aussi grand acteur. Vous le découvrez la semaine prochaine dans le film L'Esprit de famille d'Éric Bénard. François Bernard, on continue d'évoquer votre actu ciné et théâtre bientôt. Mais l'heure est venue d'écouter notre deuxième concurrente du jour, une journaliste assez clivante. Certains l'adorent, d'autres, comme beaucoup de ses collègues, estiment qu'elle en fait trop. Notamment à la fin de l'émission quand il s'agit de convaincre l'invité de voter pour elle.
En vous parlant de slip et de préservation des sols, j'ai pris le risque de me planter.
Ouais, mais là, c'est trop préparé, franchement.
Puis aussi parce que même si je suis première, les autres me marquaient la culotte.
Ça sort pas du cœur, quoi.
Anne de Gall, vos méthodes sont très discutables, mais vous êtes néanmoins leader du championnat européen. Avec quel sujet comptez-vous le rester aujourd'hui ?
Je vais parler avec mon cœur. Je vais vous parler d'un magnifique documentaire dont les héros sont des vautours, des ours, des loups et surtout un renne, puisque ce documentaire relate la première année de la vie d'un renne, Ailo, film tourné en Laponie. Un film qui a ses chances pour la sélection des Césars 2020. Et dès les premières images, on est en Laponie. Alors, les grands espaces, le blizzard, on voit un renne avec de la neige sur les bois. C'est la mère d'Ailo qui va donc lui donner naissance. Et ensuite, durant 1h20, on va suivre l'apprentissage de la vie par ce renne sauvage avec le récit du chanteur Aldebert.
On raconte qu'à la naissance, un renne a 5 minutes pour se dresser sur ses pattes. 5 minutes pour apprendre à marcher et 5 autres pour savoir courir et nager. C'est une question de survie.
Et les scènes sont incroyables, les scènes filmées quand Ailo joue avec un lièvre en l'imitant, quand il observe une hermine un petit peu faux-folle qui essaie d'attraper des œufs dans un nid. Et Eva aussi, vu le documentaire...
Ouais, j'ai cru qu'Eva aussi essayait d'attraper des œufs dans un nid, je me suis dit c'est vraiment bizarre ce film quand même. Je sais pas s'il va voir le César.
Non, j'ai voulu adopter une hermine après.
Ouais. Les images sont incroyables, on voit le détail du frémissement des oreilles, le tremblement des pattes. Et puis on observe une scène aussi avec un glouton qui fait des galipettes pour séduire une femelle, c'est assez risible. Et ce film est bluffant.
Comment on arrive à filmer d'aussi près des animaux sauvages ?
Le réalisateur Guillaume Medaszewski raconte qu'avec les animaux craintifs comme le renne, l'hermine, en fait, il faut leur parler doucement, comme à des acteurs. Alors, des acteurs, je ne sais pas si on leur parle doucement.
Très.
François Berléand.
Quand on est vieux, oui.
Jeune, non. Fort aussi.
Alors, là, les animaux, voilà, faut les prendre un peu par la douceur, par les sentiments, pour filmer l'hermine. C'est une scène assez courte. Il a fallu 6 jours quand même. Et le réalisateur pouvait rester 2-3 heures debout, sans bouger, juste pour se faire adopter. Et à la fin, les animaux ne s'en méfiaient plus. Et alors, pour les animaux dangereux, en revanche, comme les ours, il y a un autre secret de tournage que m'a confié Guillaume Medaszewski.
On a une tente sur nous, une tente de camouflage. Une tente de camouflage qui ressemble à un rocher. Donc l'animal, l'ours, il s'approche, il se dit tiens, ce truc-là c'était pas là avant, mais c'est pas inquiétant pour lui. Le problème c'est que l'ours, en l'occurrence, il peut nous sentir. Donc dans la tente, on a une cheminée qui monte à 6 mètres de haut et qui aspire notre odeur d'humain à 6 mètres de haut. Comme ça, l'ours, quand on passe, il ne nous voit pas et il ne nous sent pas.
Voilà, c'est incroyable. Il faut dire que ce réalisateur est biologiste de formation. Évidemment, il a énormément de connaissances pour s'adapter à l'instinct sauvage des animaux.
Vous savez, ça me fait penser à la Laponie. Moi, jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai été convaincu d'avoir été en Laponie. Je disais oui, la Laponie, j'y étais allé. J'ai fait un stage de chien de traîneau, tout ça. Et un jour, ma mère m'a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as dit ça dans une interview ? T'es jamais allé en Laponie ?» Et elle m'a avoué que j'étais petit, en fait, j'avais 6 ans, c'était un stage dans le Jura avec mon école.
Mais non.
Et j'étais persuadé qu'on était allé jusqu'en Laponie, c'était un village lapon. Ils avaient fait un village lapon. Et moi, dans ma tête, ça avait imprimé genre la Laponie. Elle m'a dit, mais tu te souviens d'avoir pris l'avion pour aller en Laponie ? Non, je sais pas, j'étais petit. Elle m'a dit, non, c'était dans le Jura en fait. Un truc. Voilà, une belle histoire. Merci Anne Le Gall. François Berléand, comment vous avez trouvé Anne ?
Vous allez venir chez moi. On va peaufiner ça à la campagne.
Oh, c'est sympa ça. Ah, bah, tiens.
Oh là.
Qui dit centième émission, les amis, dit mécaniquement centième quiz contre l'invité pour Eva.
Ah merde.
Et oui, les statistiques sont terribles. 87 défaites, 6 victoires, 7 nuls. Eva a tout tenté pour essayer d'inverser la vapeur au fil des mois. Réviser avant l'émission, s'abonner à Wikipédia, tenter de faire chanter le type qui prépare le quiz. Mais son arme la plus efficace, évidemment, reste la mauvaise foi. Quand on vide un lavabo, ça fait un petit tourbillon. Eh bien, le sens de rotation de l'eau dépend de l'hémisphère dans lequel on se trouve.
Oui, c'est vrai.
C'est faux.
Non, mais attendez, j'ai pas encore répondu.
Ah bah non, si. Oui, attention, François Berléand, elle est capable de tout. C'est même à ça qu'on la reconnaît. Le quiz arrive.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
C'est aujourd'hui, vous l'ai-je dit, la centième de l'équipée sauvage. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors, une fois de plus, je tenais, chers auditeurs, à vous remercier. Et d'ailleurs, si le temps ne nous était pas compté et que notre invité François Berléand n'avait pas autre chose à foutre, je vous dirais, comme Bruel à Bercy en 96...
Merci pour ça.
Mais François me fait signe qu'on n'a pas le temps. François Berléand est notre invité pour cette centième. Il sera à l'affiche mercredi prochain de L'Esprit de famille d'Éric Bénard. Mmh. Très beau film avec Eva. On peut en témoigner. Oui. Très émouvant et très drôle aussi. Dans ce film, vous vous dites, il y a quelques citations qui m'ont marqué. Vous donnez des conseils à votre fils. Vous dites, je fais tout ce que... Fais tout ce que... Vous lui intimez cette... Bref, vous lui dites... Fais tout ce qui te permet de te sentir vivant, mais pas tout seul. Il faut rire, manger, déconner, crier, désobéir, danser, baiser et surprendre. François Berléand, est-ce que c'est conforme à votre philosophie dans la vie?
Alors,
vous faites
moins,
vraiment tout
moins
ça.
Une. Oui, maintenant je suis un peu plus vieux, donc c'est pas.
C'est moins important.
C'est
désobéir.
Moins important, voilà. Désobéir.
Non,
c'est
non,
ça.
Oui, voilà, désobéir, bien sûr. Bien sûr. Désobéir. Non, non, je désobéis. Oui, oui, c'est important. Non, mais je m'adresse à mon fils qui est dans le film et est un écrivain, donc qui est. Très solitaire dans son écriture et qui, en plus, écrit des choses pas très intéressantes, mais qui se vendent bien. Mais voilà. Et donc, je lui dis, fais autre chose, quoi. Désobéis par rapport aussi à ta vie. Et puis, voilà, c'est important d'être avec les autres, de ne pas être seul. Il ne faut pas être seul. Faut communiquer.
C'est ce que je dis souvent à Eva.
Oui.
Vous avez déjà connu, François Berléand, le stress des auditions, mais croyez-moi, une audition n'est rien comparé à un quiz contre Eva Rock. Eva, qui chaque jour dans cette émission fait la démonstration de ses capacités intellectuelles hors normes, hier encore devant Catherine Meurice, nouvelle membre de l'Académie des Beaux-Arts, alors qu'un de nos chroniqueurs évoquait les peintures dépolluantes, les 49 neurones d'Eva sont entrés en collision, une idée est née, puis c'est la réaction en chaîne jusqu'à la cavité buccale et cette question.
Il y a aussi la première peinture anti-odeur qui a été inventée en France. Alors vous avez une pièce et en une heure, vous enlevez toutes les odeurs de frites, de moisies, les odeurs de fritures, de cigarettes.
Chaque fois que vous avez fait des frites, vous devez peindre votre pièce après.
Ouais, elle va pas rentrer à l'académie. Hein.
Et oui, non, la peinture c'est juste une fois. Il n'y a pas besoin de la mettre deux fois.
On a rediscuté de ce passage.
Bah, non, mais je suis un peu d'accord avec...
Merci François Berléand.
Bah, non, pardon. Ne dites pas que vous êtes d'accord. La peinture dépolluante, elle dépollue tout le temps.
C'est mais pas... oui, mais
c'est
ça. Sauf,
pas savoir. Mais moi, j'ai compris la même chose que... Mais
merci.
Je suis un peu...
Oui. Merci François.
D'origine russe.
Ah ben.
Ça doit jouer.
Et moi, niçoise, ça doit être ça aussi.
Bah, c'est ça. Non, c'est pour ça. C'était...
En tout cas, vous avez vu ses capacités. C'est face à elle que vous allez maintenant jouer. C'est l'heure du quiz. Mon cher François Berléand, au cinéma, au théâtre, vous avez joué les plus grands auteurs. C'est pourquoi nous allons jouer avec des citations. Vous allez devoir retrouver les auteurs. Je vous ferai des propositions, mais faites-moi un petit plaisir. J'aimerais m'effacer devant vos organes à tous les deux, Eva et François. Je vais vous donner une feuille avec toutes les citations. J'aimerais les entendre de votre bouche. Allons-y pour la première citation. C'est Eva Rock qui doit retrouver l'auteur, mais c'est François Berléand qui la lit.
L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour des vertus.
Jean d'Ormesson, Molière ou Michel Drucker?
J'aurais dit Molière avant
vous
même que
vous
donniez
Michel.
Les propositions.
Vous dites Molière?
Oui.
Vous maintenez votre choix?
Oui, je maintiens mon choix.
Molière, effectivement, bonne réponse, ouais. Eva Rock. Molière que vous avez joué au théâtre en 1974, si je m'en souviens bien, et surtout si Wikipédia ne dit pas de bêtises, François Berléand, c'est ça? Vous avez joué Molière, Monsieur de Pourceaugnac.
Oui. Oui.
Bonne réponse.
Oui.
Bonne réponse qui ne donne pas de points, mais bonne réponse quand
Merci.
Même. Deuxième citation, varions les plaisirs, c'est Eva Rock qui nous la lit. À François Berléand de retrouver l'auteur.
Les seuls murs vraiment impénétrables sont ceux dont on s'entoure soi-même.
Mmh. Oula. Joli, le Dalai ça. Lama, Paul Claudel ou Luis Fernandez?
Luis Fernandez, peut-être pas. Je vois bien ça, Dalai Lama, mais peut-être que c'est l'autre, mais je dirais Dalai Lama.
Ouais, le Dalai Lama aurait pu, hein. Il aurait pu, mais c'est Luis Fernandez.
Non.
Oui, c'est Luis Fernandez qui a dit
quoi
ça.
Pour commencer, par
les seuls murs vraiment impénétrables sont ceux dont on s'entoure soi-même. Il parlait peut-être des murs pendant le match, vous savez, quand il y a un coup franc. Je sais pas.
N'insultez pas l'intelligence de Luis.
C'est formidable. Ah non, je ne pensais
pas. C'est beau. Il a aussi dit, Luis, le foot, c'est pas des maths. Il n'a pas totalement tort. Beaucoup de grandes citations de Luis Fernandez.
Là, j'aurais su. Ah, c'est cool. Pourquoi on m'a pas donné celle-là ?
Je suis désolé. Oh. François Berléand, lisez s'il vous plaît la troisième citation à Eva Rock de trouver l'auteur.
Ça, celle-là est très, très bien. Ouais. Il n'y a plus d'anthropophage dans le pays depuis que nous avons mangé le dernier.
C'est très drôle ça.
Georges Feydeau, Popek ou André Santini ?
Ah, peut-être Popek.
Vous dites Popek ?
Oui.
C'est une mauvaise réponse, c'est Feydeau.
Ah, c'est Feydeau.
Oui, on se souvient de Tailleur pour dames et le dindon que vous avez joué, mon cher François.
Oui.
Citation numéro 4, lue par Eva Rock.
Il y a des gens qui ont une bibliothèque comme les eunuques un harem.
Victor Hugo, Philippe Solers ou Christophe Willem ?
Moi, je me souviens Philippe Solers. Mais...
Vous diriez Philippe Solers ?
Ouais.
Eh bien non, c'est Victor Hugo.
Oh, alors, oui.
Il a dit aussi, Eva, et ça, ça va vous intéresser, « Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin ». Victor Hugo, que vous avez joué, François Berléand, en 1985 dans Hernani, au Théâtre National de Chaillot.
Que c'est par rapport à ce que j'ai joué.
Il vient de comprendre le principe du quiz.
Merde, je viens enfin comprendre.
Oui, vous avez vraiment une...
Ah mais oui, j'ai un cuir de nouilles.
Donc, avec Eva, vous êtes trouvé là.
Oui,
qu'est-ce qui se passe?
Et là, on se marie, on va avoir des enfants formidables.
Oui, c'est génial.
Ils vont être prêts. François Berléand, c'est à vous de lire la cinquième citation.
Tes larmes sont utiles, elles coulent pour faire des océans, pour rafraîchir la terre, pour faire pousser la force qui vit sous ton écorce.
Waouh. Eugène Ionesco, Mylène Farmer ou Jean-Claude Van Damme?
Oh, ça, c'est du Mylène Farmer.
Vous connaissez vraiment la discographie de Mylène Farmer par cœur?
Non, mais je ne vous dirai pas pourquoi j'ai pensé à ça.
Eh bien,
mais
oui,
je pense que c'est Mylène Farmer.
Écoutez, Eva, c'est une bonne réponse. J'ai essayé de vous déstabiliser une fois de plus,
oui,
mais c'est une bonne réponse.
À chaque fois, vous essayez. Mais
dernière citation
savez...
qui va... Vous, je ne sais pas, elle a
peut-être vu la
réponse.
Elle a gagné. Hein.
Ah oui, j'ai gagné.
Ah non, non, vous n'avez pas gagné parce que la dernière question vaut 3 points. Dernière citation lue par Eva Rock.
Le piano, c'est l'accordéon du riche.
Yvette Horner, Evangélie ou Michel Audiard?
Bah Michel Audiard.
Michel Audiard, bonne réponse. Et c'est François Berléand qui remporte le quiz sur le fil. Oh, c'est bien
enfin
foutu cette émission.
Fallait,
on vous a sauvé grâce au règlement. Grâce à notre règlement à géométrie variable. Il en a connu des succès et des distinctions, mais battre Eva Rock sur un quiz de culture G, même dans ses rêves les plus fous, il ne l'aurait jamais imaginé. François Berléand est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Le retour du castor. En soi, le titre de la chronique qui suit peut sembler anodin, voire chiant. Et pourtant, quelque chose de l'ordre de l'intuition me dit que ça va être un très beau moment de radio. Et je sais que vous le sentez aussi, Eva. Bon, en tout cas, ce sera juste après l'hymne de nos campagnes, Trio sur Europe 1. L'hymne de nos campagnes, c'était Trio sur Europe 1. Ils seront les invités de Philippe Vandel demain entre 9h et 11h dans Culture Média.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Je vous l'avoue, chers auditeurs, depuis qu'il sait que le sujet suivant va traiter du retour du castor, j'ai du mal à contenir l'excitation de notre invité François Berléand, qui gigote d'impatience, pas vrai François?
On en est tous là. Bah après les rennes, les castors.
C'est le retour du castor, on a tous hâte, retrouvons vite Lionel Gougelot, notre correspondant dans le Nord. Bonjour Lionel.
Salut Mathieu, bonjour à tous et bonjour à François Berléand que j'apprécie beaucoup. Et moi je dis ça en toute sincérité parce que contrairement aux autres chroniqueurs, j'ai rien à gagner dans l'histoire.
Bah, c'est vrai, vous n'êtes pas en compétition, ça vient du cœur.
Grand amateur de rugby en plus, donc forcément un mec bien.
Très très bien, mais n'y passons pas non plus la nuit. Lionel, on parle de ce gros rongeur à queue plate, le bûcheron des forêts, le castor.
Ouais, effectivement. D'ailleurs, c'est en découvrant, figurez-vous, des arbres rongés, vous savez, comme des taille-crayons au bord d'un cours d'eau au sud de la région lilloise, et bien que des responsables d'un bureau d'études d'environnement ont compris que le castor était donc de retour dans le Nord. Et je suis allé rencontrer Julien Lazare, il fait partie de l'agence Rainette à Valenciennes, et figurez-vous que c'est lui qui a fait les premières observations il y a quelques mois.
On a trouvé donc plusieurs indices sur environ 2 à 2,5 km, une bonne vingtaine de troncs abattus par le castor, complètement coupés, quoi, typique du castor, donc là c'était, il n'y avait plus de doute, quoi. Le castor était bien là.
Ce ne sont que des traces, vous ne l'avez pas vu en vrai?
Non, effectivement, c'est assez difficile de le voir comme il a une mœurs nocturne, à cause de justement, il était très chassé par l'homme, donc maintenant il a plutôt tendance à sortir la nuit. Mais tous ces indices, c'est le seul à savoir faire ça, donc il n'y a aucun doute, quoi.
Lionel, j'aime quand vous faites comme ça les vrais journalistes d'investigation. Vous l'avez poussé dans ses retranchements pour savoir si vraiment il n'y avait aucun doute.
Non, aucun risque de confondre avec, par exemple, le ragondin. D'autant qu'après avoir posé des pièges à poil...
Des pièges à poil, c'est à qui a posé un piège à poil
Les spécialistes. Hein. Alors c'est un instrument, hein. C'est pas une façon de poser des pièges. Des expertises ADN ont été effectuées par l'Office national de la biodiversité. Et donc, confirmation, c'est bien un castor de type européen, un lointain cousin du castor d'Amérique du Nord.
Je savais que votre sujet vous déstabiliserait vous-même, Lionel.
Qui a donc réapparu.
Eh oui, il a réapparu.
Non, mais c'est passionnant.
Quel acteur mais... Un César pour Berléand.
Bon,
il a réapparu.
Et figurez-vous qu'il vient... figurez-vous qu'il vient de Belgique.
Ah,
ça ne s'invente pas. Oui, parce qu'en fait, il a été réintroduit. Il a été réintroduit en Belgique et donc il a passé la frontière, tout simplement.
Alors, le retour du castor, est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Oui, c'est une excellente nouvelle pour la biodiversité parce que le castor contribue à la création de zones humides.
Évidemment.
Oui, de zones humides. Et puis le manteau.
C'est vrai que ça peut servir à ça aussi, nos amis les castors.
En recréant donc toutes ces zones humides via l'abattage, en reméandrant donc ces cours d'eau, etc., il va apporter un véritable gain pour la biodiversité. Ça va recréer donc des zones humides qui vont être utiles pour les amphibiens. Donc ces amphibiens vont attirer des oiseaux qui font donc des échassiers, par exemple. Donc ça va vraiment recréer un habitat typique de zone humide très très favorable à tout ce qui est biodiversité, quoi. C'est vraiment un véritable plus pour la faune et la flore.
Ah bon.
Voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc, alors figurez-vous que ce qui est dingue dans l'histoire, c'est qu'hier soir, j'ai reçu un communiqué officiel de la préfecture du Nord qui me confirme donc la réapparition du castor dans le département. Et les autorités demandent même que si vous vous baladez dans la nature, que vous observez quelque chose, des troncs d'arbres rongés, ben, surtout n'hésitez pas à prévenir l'Office national de la biodiversité.
François,
ah oui, on en est là.
Visiblement, n'hésitera pas. Il va d'ailleurs projeter un petit voyage dans le Nord pour pouvoir vous aider là-dessus. Il sera bienvenu. Merci Lionel Gougeot, on vous embrasse très fort. Bisous au castor.
À bientôt.
Europe 1.
Les amis, quand on sait comment s'est terminée la 90e édition de l'équipée sauvage avec Cadmerade... Je peux difficilement me porter garant de ce qui suit, puisque nous fêtons aujourd'hui la 100e de l'équipée sauvage. Prêt, Eva, pour une deuxième heure de découverte et de rire?
Attendez 2 minutes que je remette ma culotte.
Prenez le temps, il y a la pub.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
C'est la mi-temps pour les valeureux journalistes d'Europe 1 qui croisent le fer chaque après-midi dans l'arène surchauffée du studio Coluche. Et l'émotion est immense aujourd'hui puisque nous fêtons la 100e de l'équipée sauvage avec l'immense François Berléand qui savoure chaque instant passé parmi nous puisqu'il me le disait hors antenne.
Ce moment est un peu pour moi comme une bénédiction parce que je me dis que demain, je ne verrai plus vos têtes de con et ça quand même c'est...
On aurait pu difficilement rêver plus bel hommage. François Berléand reste avec nous. Deux nouveaux candidats au titre de chroniqueur du jour s'échauffent en coulisses. On va parler musique, science, télé et mon petit doigt me dit que pour François Berléand, Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, a mis les petits plats dans les grands avec surtout de la truffe au milieu du plat. À mon avis, il va même débarquer plus tôt que prévu en s'exclamant
« Je te sers un coup de pommard, ça rime avec Brachmar. »
Tant qu'il n'ouvre pas un Pétrus. Mais tiens Eva, il est 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1 et vous êtes au cœur de la 100e de l'équipée sauvage. Un 100e rodéo sur l'étalon fougueux du savoir en compagnie de ma fidèle complice Eva Rock, la Calamity Jane des mots, en lice pour le titre d'intervieweuse de l'année 2019 pour l'ensemble de son œuvre, mais surtout...
Mais c'est cette idée-là qui a été qui a préconisé le bouquin.
Non, c'était pas préconisé. Vous voyez,
c'est cette idée-là. Attends, c'est cette idée-là qui a inspiré le fait que non, tu vois, ça marche pas du tout.
François Berléand, je crois qu'Eva a une question pour vous. Non, je déconne. François, on continue d'évoquer votre actu ciné avec la sortie mercredi prochain de L'Esprit de Famille d'Éric Bénard et au théâtre. Aussi, vous serez au théâtre à partir du 25 février prochain avec la pièce Par le bout du nez, nouvelle pièce des auteurs du Prénom, dont on va parler bien sûr. Simplement, le temps de vous présenter nos deux ultimes journalistes en compétition ce soir. À ma gauche, il est mon coach musical. Spécialiste jazz, mais pas que, c'est lui qui m'a initié au rap. Le problème, c'est qu'il m'a initié au rap après que j'ai reçu les membres du groupe IAM. Du coup, c'était un peu trop tard. Ma première question est beaucoup plus prosaïque. Quand vous avez créé NTM en 89...
Avant de répondre à la question, on n'a pas créé NTM, on a créé IAM.
Vous l'avez enregistré celle-là, elle est pas mal.
Bonjour Fred Goetti, oui, là c'était enregistré.
C'est la meilleure.
Vous êtes arrivé trop tard dans ma vie, Fred.
J'essaierai de faire mieux la prochaine fois.
Ouais. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du plus grand guitariste de jazz de tous les temps, on peut le dire.
Ah, on peut dire. Alors une bande dessinée qui raconte les premières années de la trop courte vie d'un des plus foudroyants génies musicaux du XXe siècle. On en rêvait, et Fa et Rubio l'ont faite.
Voilà. Et celle de Django Reinhardt, parce que si vous dites pas de
oui.
quel guitariste
oui, parce que
il s'agit,
vous
pensez, j'ai pas dit, mais je pensais qu'il allait le dire, mais je suis bête, je suis tellement ému d'être devant notre invité.
Django Reinhardt, le plus grand guitariste du monde.
À ses côtés, François Berléand, grande mélomane elle aussi. Aujourd'hui, c'est de mathématiques et de calculs qu'elle va nous parler. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour.
Un super calculateur va être présenté demain, le plus puissant d'Europe. Mais à quoi va-t-il servir? Et la question que je vous pose.
Oui, en fait, la recherche française va avoir à sa disposition un énorme ordinateur qui va permettre de faire des opérations incroyables. 16 millions de milliards d'opérations par seconde, je vais vous raconter ça. Mais ça va permettre à toute la recherche scientifique de travailler sur cet ordinateur.
Mais écoutez Laure, je demande à voir les prouesses de ce super calculateur, mais permettez-moi de douter de son intérêt, car en matière de calcul et de raisonnement dialectique, l'homme sera toujours supérieur à la machine, comme je le prouvais l'autre jour par cette réflexion à la logique imparable. J'ai chaud aux oreilles. Si j'ai chaud aux oreilles, c'est qu'il fait trop chaud dans le studio. Oui, si jamais un jour il y a un biopic sur moi, ils appelleront ça A Beautiful Mind. Bref, le super calculateur ou les secrets d'enfance de Django Reinhardt, quel sujet vaincra? Qui repartira coiffé de cette couronne qui ferait tâche même en accompagnement d'une galette des rois? Nous le saurons juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité d'honneur, François Berléand. On s'est posé la question, qui est pour vous François Berléand? Voici, non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'ego de l'invité, voici notre micro-trottrache. C'est pareil, sauf qu'on n'a pas payé de monteur pour couper les vacheries éventuelles.
Bien, très bien. C'est François Berléand.
Il est un peu chauve, un peu dégarni, avec une barbe de 3 jours. Plutôt bel homme. Ouais.
C'est le patriarche, tranquille, un peu énervé, l'homme aux névroses.
Il a une bonne tête de franchouillard, quoi, c'est tout.
Il fait vrai, pas tordu, pas compliqué, franc.
Un homme de confiance.
Un peu cabot, peut-être aussi.
C'est quelqu'un qu'on a envie d'inviter à dîner, quoi.
J'aime bien, moi, tout ce qui est vieux, tout ça. Romantique, tout ça, c'est pas mal.
C'est un grand acteur. Et il n'y en a pas beaucoup. De grands acteurs qui peuvent jouer absolument tout.
Il est un peu passant, oui. Hein.
Il est un peu rustre parfois, mais il a une bonne tête.
Bonjour, monsieur Berléand.
Ah oui, il est charmant.
Je vous aime beaucoup.
Bon, oublions ceux qui vous trouvent charmants, concentrons-nous sur ce qui est intéressant, ceux qui vous trouvent méchants. Alors, sans rire, après les choristes, dans la rue, les gens changeaient de trottoir. Vous leur faisiez peur.
Ou alors même, et carrément, ils venaient avec leurs enfants.
Ouais.
Qui étaient turbulents, il y a des mauvaises notes. Il y en a une notamment qui est arrivée avec son enfant, qui dit, tu vois, si tu continues à mal travailler, tu vas aller dans l'école de monsieur.
C'est la preuve que vous êtes un bon acteur.
Et moi, je lui disais, mais tu travailles mal, c'est bien, continue mon.
Alors, mon cher François, vous commencez à me connaître. Je déteste mettre la pression à mes invités qui ont la gentillesse de passer l'après-midi avec nous. Mais j'ai compté tout à l'heure, dans 33 jours, le 25 février, ce sera la première au Théâtre Antoine de votre pièce intitulée « Par le bout du nez », où on en est du texte et des répétitions.
Le texte est... il reste encore 2-3 pages que je ne connais pas encore assez bien. Mais pour l'instant, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et on est bien. En général, on est toujours mal, on dit on a pas assez de temps, mais là, pour le coup, on peut pas le dire, on a 2 mois de répétition, un tout petit peu moins. Puis, enfin, François-Xavier va être formidable.
Et vous allez être pas mal aussi.
Je sais pas, mais en tout cas, François-Xavier sera formidable. Donc déjà, bon, bah, ça fait un sur deux, ça fait bien.
On va en parler tout à l'heure quand l'inénérable Pouls va nous rejoindre, mais vous êtes un bon vivant, François Berléand.
Oui.
François-Xavier de Maison
aussi
n'est pas adepte du quinoa non plus.
Non.
Comment ça se passe les répétitions? Est-ce que vous faites un peu la chouille après les répétitions?
Non, non,
ou là c'est vraiment boulot-boulot?
Non, pour l'instant c'est boulot-boulot. On répète de 3h à 7h. On ne peut pas répéter plus parce qu'à 2, on ne peut pas répéter plus de 4h. Donc je sais que ça va être très dur à partir du moment où on va vraiment jouer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le souper.
Ah oui. Là, le souper, ça va être sympa.
Et là, le souper, ça va, je sais qu'avec lui, ça va terminer à pas d'heure, avec beaucoup de nourriture.
C'est quoi cette obsession avec les psys? Dans cette pièce, avec François-Xavier de Maison, vous incarnez un psy qui va psychanalyser, ou en tout cas aider le président de la République qui a un petit souci de démangeaisons nasales, si je puis dire. Il n'arrive plus à prendre la parole en public. Pourquoi beaucoup de rôles de psy quand même? Il y a le film de Cédric Tapiche dont on a parlé aussi.
Et une autre pièce.
Et une autre pièce,
la
pièce suivante,
c'est La Banquette. Oui.
Où vous incarnez aussi un psy. C'est le rôle qui vous excite le plus.
C'est l'année psy.
L'année
dernière, c'était l'année fantôme.
Ah,
vous voyez, j'ai fait un fantôme au cinéma et donc qui va sortir la semaine prochaine et un fantôme au théâtre que j'avais fait.
C'est vrai.
Qui s'appelait encore un instant.
Vous avez des thématiques comme ça par année.
Alors, je ne sais pas, tout à coup...
Mais tous les gens vont venir se confier à vous, parce qu'on va finir par croire que vous êtes vraiment psy.
Oui, Mais là, à ce moment-là, ils vont payer, parce que là, ça commence à bien faire, cette
histoire. Il ne perd pas le Nord. Avant les planches, le grand écran, mercredi prochain, il sera à l'affiche de l'Esprit de Famille. François Berléand est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, il est notre prof de musique, Fred Goati, directeur de Jazz Magazine, tente chaque semaine de nous bonifier musicalement. Et comme dans Les Choristes, il part de loin. Pas sûr qu'on soit prêt pour le spectacle de fin d'année. Aujourd'hui, Fred nous parle d'une légende du jazz, Django Reinhardt. À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Dans un monde où l'on note les livreurs de sushis et les chauffeurs de taxi, pourquoi ne pas noter aussi les journalistes ? C'est cette idée qui a présidé à la création de l'équipe est sauvage, la première compétition journalistique de France dont nous fêtons aujourd'hui avec François Berléand, la centième. Depuis 16h, les témoignages se multiplient, nos auditeurs sont unanimes.
J'en ai absolument rien à foutre.
J'en ai rien à foutre !
Joints par téléphone, nos précédents invités sont aussi émus.
Alors là... Je m'en fous royalement.
On t'embrasse, Jamy. Mais ne nous laissons pas submerger par l'émotion. L'émission doit continuer et surtout la compétition, puisque voici notre troisième concurrent ce soir. C'est lui qui, à l'époque, avait tout appris au regretté Scatman.
I'm a Scatman.
Fred Goati, en tant que directeur de Jazz Magazine, vous devez vous y connaître un peu en Django Reinhardt. C'est ce que je me suis laissé dire.
Je ne suis pas le plus grand spécialiste de la Terre, mais je l'admire profondément. Alors, je vais parler d'une bande dessinée de Django Main de Feu. Et une fois n'est pas coutume, cette bande dessinée est préfacée par l'un des plus grands fans de Django Reinhardt, Thomas Dutronc, dont on sait l'admiration sans limite qu'il porte à la musique du génial Manouche. Oui, c'est comme ça que les Django-philes appellent leur guitare héros. Alors, Django, même son prénom est magique, écrit Thomas Dutronc. Mmh. Et il a bien raison, tout est magique dans la musique de Django Reinhardt. Et par conséquent, tout est mystère. Comment un seul homme a-t-il pu concentrer en lui autant de beauté, de lumière, de virtuosité, d'amour et surtout de générosité ? À la limite, ça ne s'explique pas. En revanche, ça peut se dessiner. Et c'est pour ça que la BD d'Efa et Rubio, Django Main de Feu, donc, vaut bien des longs discours. Et le plus beau dans leur histoire, c'est qu'ils ont choisi de ne raconter que la naissance, l'enfance et la jeunesse de Django Reinhardt et de zapper en quelque sorte les années glorieuses.
Bon, il y aura un tome 2 si ça marche. Hop.
Sans doute. Peut-être. Celle des 78 tours à succès avec le fameux quintet du Hot Club de France et le merveilleux Stéphane Grappelli au violon. Celle du voyage aux États-Unis où il joue avec Duke Ellington et qu'il arrive en retard sur scène, etc., etc. Non, le Django d'Efa et Rubio, c'est celui des balles musettes. Un Django moins jazz que Java qui fit ses premières armes en jouant du banjo avec les rockstars de l'époque, j'ai nommé les accordéonistes. Tiens, tendez bien l'oreille, nous sommes en 1928 et Django accompagne Maurice Alexander. Et j'adore le titre du morceau, Parisette.
Toute la jeunesse d'Eva, ça, hein, qui remonte à la surface. Ouais. Beaucoup d'émotions. S'attarder sur l'enfance et la jeunesse de Django Reinhardt sans raconter ses années de gloire, c'est pas un peu frustrant malgré tout pour le lecteur ?
Pas du tout. Et c'est même ce parti pris qui procure une espèce d'émotion singulière, car c'est en quelque sorte l'enfance de l'art de Django qu'on redécouvre. Et le moment clé, évidemment, de cette histoire, c'est bien sûr l'incendie de la roulotte. Alors rappelons qu'à cause de cet incendie, Django Reinhardt n'a pu se servir, après cet incendie, donc que des deux doigts de sa main gauche. Et ça ne l'a vraiment pas empêché de réaliser tous ses rêves de musique.
Ah,
vous
ne
la connaissiez pas ? Ah ben non, il a failli tout perdre, sa jambe, son bras, sa main. Eh bien si, il a réinventé, il a surmonté son handicap. Il n'avait plus que deux doigts et un peu le pouce, il faut l'avouer, et le troisième doigt qui pouvait vaguement poser sur le manche. Il a réappris à jouer avec cet handicap. On pourrait presque dire qu'il jouait encore mieux qu'avant. Tiens la preuve. Alors ça, c'était Django, seul en studio, avec la guitare près du cœur, le 27 avril 1937. C'est tellement hallucinant, on en reprend une petite dose. Avec deux doigts.
De guitare. C'est fou.
Alors sinon, je voudrais dire qu'entre les pages 58 et 61 de Django Main de Feu, la manière dont Efa et Rubio mettent en image l'incroyable détermination de Django pour rejouer de la guitare après son accident, bah c'est visuellement vraiment très très fort et c'est surtout une belle leçon de vie et de musique. Bref, quand on referme cette BD, soyons honnêtes, Mathieu l'a dit tout à l'heure, on a malgré tout qu'une seule envie, c'est de lire la suite des aventures de Django, ce dieu de la guitare comme dit Thomas Dutronc. J'ai le titre, s'ils veulent, hein, parce qu'il est tout trouvé. Après Django Main de Feu, Django Doigt de Fée. Et tant mieux s'il y a des nuages à l'horizon, puisque comme chacun sait, Nuages, c'est la plus célèbre composition de Django.
Est-ce est-ce qu'on sait s'il était sympa, Django Reinhardt? Moi, c'est toujours la question que je pose quand j'ai des idoles. Je sais par exemple que Keith Jarrett n'est pas très sympa, le grand pianiste, et c'est mon grand regret. Je suis triste de savoir qu'il n'est pas sympa.
J'ai vu l'homme qui a vu l'homme. J'ai connu quelqu'un qui a connu Django Reinhardt, c'est monsieur Frank Teno, ancien directeur de cette station et mon ancien patron. Et il me disait que Django était un type adorable et qu'il appelait tous les gens qu'il aimait mon frère. C'est beau.
Ah ben ça, j'en aurais eu des tremblements s'il m'avait appelé mon frère. Mon remercie très chaudement Fred Goati. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points, voire les 6 points aujourd'hui, puisque François Berléand aura 6 points. François Berléand se tâte et vous répondra juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, selon une étude de l'université d'Oxford, les gens perdent en moyenne 17 minutes par soir à s'engueuler devant la page d'accueil de Netflix. Pas vous. Grâce à Eva Rock, notre expert média qui vous guide dans la jungle des programmes, des conseils judicieux couplés à une analyse de fond.
Bon, De Niro, comment vous dire ? C'est De Niro, hein, ouais.
Que reste-t-il à Jérôme Garcin ? Les analyses fouillées d'Eva, c'est juste après une nouveauté Europe 1. Alicia Keys, Underdog sur Europe 1. Underdog, c'était Alicia Keys sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Qui sera élu chroniqueur du jour ? Vous écoutez l'équipe est sauvage, la Ligue des champions des journalistes d'Europe 1. À l'occasion de la 100e, un coach exceptionnel pour nos poulains. Il est au cinéma français ce que Jürgen Klopp est au foot anglais, une référence. Oui, aujourd'hui c'est François Berléand qui supervise l'entraînement.
On bloque les fessiers, on respire, anus, bouche, même canal.
Oui.
Attention, souplesse, 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 on bloque.
François Berléand, mercredi prochain, on vous retrouve dans l'esprit de famille comédie où on rit bien sûr. On va parler télé et série avec vous, Eva. Justement, François Berléand, il y a des phrases de séries télé qui peuvent marquer un enfant. Vous, une phrase malheureuse de votre papa concernant la série L'Homme Invisible vous a complètement chamboulé.
Oui, mon papa m'a dit un jour que j'étais le fils de l'Homme Invisible.
Pour rire ?
Non, il était russe. Les Russes, non mais les Russes boivent beaucoup de vodka.
Ah oui, d'accord. Donc voilà. Il était vraiment russe, quoi.
Donc il était russe, un peu alcoolique. Et du coup, un dîner, il y avait des invités. Il m'a dit, toi, de toute façon, tu es le fils de l'homme invisible. Voilà, je l'ai cru. J'ai eu la faiblesse de le croire.
Et ça vous a valu de la psychanalyse par la suite pour
oui, ça m'a valu, pas l'asile psychiatrique, mais pas loin. Beaucoup de pédopsychiatres, de psychologues, voilà. Et donc, j'ai pris de l'avance par rapport à mes rôles de psychanalyste, parce que j'en ai vu beaucoup.
Mais parce que, c'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, vous pensiez vraiment, quand vous étiez enfant, que vous étiez invisible. C'est-à-dire que la phrase avait eu un écho en vous énorme.
Ah oui, absolument, oui.
Vous le croyez.
Et ce qui est très amusant, si vous voulez, c'est le jour où... parce que je ne comprenais pas pourquoi mes copains me disaient bonjour, puisque j'étais invisible. Et donc, un jour, en classe, j'ai dit, mais oui, bien sûr, ce sont les vêtements.
Vous avez enlevé vos vêtements.
Et j'ai enlevé mes vêtements et je me suis retrouvé tout nu. Et donc, c'est là où le pédopsychiatre est entré en lice.
Est-ce que ça veut dire que vous faites extrêmement attention aux phrases que vous dites avec vos enfants ?
Parce
que vous
savez... Non. Bah non, mais je ne fais attention à rien, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est que je n'ai pas de filtre de temps en temps. Pourtant, j'ai reçu une éducation, mais vraiment... Mais de temps en temps, le filtre disparaît. Celui qui ne doit pas disparaître, disparaît. Je m'emballe. Ah non, j'ai dit des trucs terribles à mes enfants. J'en suis voulu, mais alors je peux malheureusement pas le répéter. Enfin, non, surtout pas le répéter là, mais des trucs violents. J'ai vraiment dit...
Sans le vouloir. C'est...
Oui, parce que pour moi, c'était une vérité. Mais tout à coup, c'était une vérité qui ne peut pas être dite à ses enfants.
Pas de blagues à vos enfants, surtout sur les séries télé. Eva, on va parler télé et écran, car le saviez-vous, François Berléand, selon une étude de l'université d'Oxford, on perd désormais tous 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour choisir ce qu'on va regarder sur Netflix. Heureusement, il y a Eva Rock et ses 17 minutes de gagner, Eva.
Alors, je vous emmène dans un univers un peu spécial. On est à bord de Avenue 5, c'est une navette spatiale XXL avec à son bord 5000 passagers et membres d'équipage. Direction les anneaux de Saturne, c'est un voyage de 8 semaines qui est mené par le capitaine Ryan Clark et interprété par Hugh Laurie. Alors moi, une nouvelle série avec Hugh Laurie, si vous
Hugh
voulez.
Hugh Laurie, c'est Dr House,
exactement. C'était le premier argument qui m'a fait me précipiter sur cette série donc intitulée Avenue 5 et qui est diffusée sur OCS actuellement. C'est une comédie qui n'est pas sans rappeler, vous allez adorer ça Mathieu, y a-t-il un pilote dans l'avion et ce genre de comédie. Là, voilà. Et puis, qui est l'œuvre d'Armando Iannucci, qui était le créateur d'une autre série culte qui s'appelle VIP et qui se déroulait dans les couloirs de la Maison Blanche.
Oui.
Voilà. Alors là, changement d'ambiance, donc, avec ce périple spatial qui était donc prévu pour 8 semaines et qui, à cause d'une erreur de trajectoire, va durer 3 ans. Donc, à bord, passager hystérique, une technicienne qui est un peu dépassée par les événements, un milliardaire qui est organisateur de cette croisière qui est totalement mégalomane, et puis ce capitaine, donc Hugh Laurie, capitaine comme je suis Miss France, c'est pour vous dire. Résultat, la série est un hymne à la stupidité humaine et à l'incompétence, et c'est réjouissant, c'est à hurler de rire. Et ça ne manque pas de sens, parce qu'en fait, il s'agit bien de s'interroger sur la frontière entre l'autorité et l'anarchie, sur les mouvements de foule aussi, sur la capacité ou non d'entraide quand on est dans une situation de crise. Tout cela en 8 épisodes de 26 minutes, vraiment je vous la recommande, ça s'appelle Avenue 5. C'est à regarder évidemment au second degré, voire au troisième. Autant de degrés, je dois vous dire, qui vont vous être nécessaires.
Pour
voire indispensable, si vous tombez sur la télé-réalité sur laquelle je suis tombée malheureusement, qui s'appelle Les plus belles mariées, c'est sur TF1, c'est tous les jours à 17h05. C'est une compétition entre quatre femmes qui vont se marier, qui aura la plus belle robe, qui aura les plus belles chaussures et qui aura la plus jolie coiffure et maquillage. Alors d'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est à 17h05, je le rappelle, vous pouvez zapper, vous écoutez Europe 1 parce qu'il paraît qu'il y a une émission qui est très sympa qui s'appelle L'équipée sauvage.
Belle mariée.
Voilà, mais sinon vous regardez OCS Avenue 5, c'est vraiment très bien, OCS, vous allez beaucoup rire.
Il faut l'abonnement.
Exactement.
Quand même. Pour regarder OCS.
Oui, il faut l'abonnement.
Bah alors prenez-le. François Berléand vous le rembourse. Merci, c'était 17 minutes de gagner.
Europe 1.
Avis aux sages du CSA, tout va bien se passer. Oui, c'est vrai, le dernier sujet de Lord Autriche sur les Asiatiques et le piano avait un petit côté OSS 117, rendez-nous l'Indochine, ils sont devenus fous. Eva, notre rédactrice en chef, avait d'ailleurs eu un léger doute à l'antenne.
Parmi ces 500 pianistes, plus de la moitié des candidats viennent d'Asie. On a plus de 100 Chinois, 90 Japonais. Et leur niveau aujourd'hui est bien meilleur, même les plus petits.
On va se faire tacler de racisme ou pas ?
Non.
Non, hein ?
Non, non, non.
C'est une réalité.
Vous inquiétez pas.
Vous inquiétez pas ! L'on revient avec un sujet sans risque aujourd'hui. La présentation demain d'un super calculateur qui devrait changer la donne dans beaucoup de domaines.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Croyez-le ou non, on célèbre aujourd'hui en compagnie de François Berléand la 100e de l'équipée sauvage. François, qui est à l'évidence ravi, alors qu'il a les 40 pages de texte à mémoriser pour sa pièce qui démarre le mois prochain, de passer 2 heures à superviser une compétition de journalistes dont la dotation principale est une couronne en plastique Pierre Import.
Si vous croyez que ça m'amuse de jouer les gardes-chiourmes, il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais allez-y vous, engagez-vous, luttez, puisque vous avez la foi. Mathieu, Saint Mathieu.
Bon, il est bougon, mais il est ravi d'être là, je le sens. François Berléand continue d'évoquer la très touchante comédie L'Esprit de Famille qui sort mercredi prochain, et cette pièce aussi dont on va parler encore un peu, mais sur L'Esprit de Famille, un mot d'une ressemblance qui nous a frappé avec Eva, et visiblement pas que nous,
oui.
Avec Michel Serrault. Plus ça va, et plus, là, dans ce film, vous ressemblez à Michel Serrault, un petit peu.
Ah bon ?
Oui.
Vous le découvrez ?
Non, mais bon, Michel Serrault était mon idole absolue, donc... voilà, le compliment me va droit au cœur, n'est-ce pas ? Mais non, je ne cherche pas à ressembler à Michel Serrault, mais c'est vrai qu'il y a un petit air de famille avec la barbe aussi, bon, tout ça. Mmh. Mais,
c'est un nouveau maître.
Bah, lui, vous savez, les acteurs entre eux, on sait bien comment ça vient, la technique, etc. Lui, quand il jouait, notamment dans Les Fantômes et Chapelier, quand j'avais vu le film, je me suis dit, mais comment il peut jouer ? Comment on arrive à avoir dans sa tête une façon de jouer comme ça, c'est impossible, quoi. Et pour moi, c'était vraiment un génie, quoi. Mais vraiment un génie.
J'ai lu, François Berléand, que vous ne vous regardiez jamais dans les films. C'est toujours vrai aujourd'hui ou c'est une vieille interview ?
J'ai beaucoup de mal à me regarder, donc je préfère ne pas voir les films dans lesquels je suis. C'est pour ça que je fais beaucoup de théâtre.
Quand vous ne vous regardez pas, c'est parce que vous n'aimez pas vous voir physiquement ou parce que vous vous trouvez mauvais ?
Je me trouve mauvais.
Ben, vous savez bien que vous n'êtes pas mauvais, François Berléand.
Mais moi, si, je me trouve mauvais.
Et vous trouvez les autres acteurs autour de vous bons et
très
vous
bon.
Au milieu ?
Très bon et moi mauvais, voilà. C'est comme ça, je trouve ça.
Est-ce que vous avez ce complexe de l'imposteur dont beaucoup d'artistes nous
parlent ? Le syndrome de l'imposteur.
Souvent, au sommet de leur carrière, nous disent « Ah, mais parfois je m'arrête et je me dis, mais en fait, je n'ai pas mérité tout ça, qu'est-ce qui se passe ?»
Bien sûr, oui. J'ai ce complexe-là, bien sûr. Parce que je viens du théâtre subventionné et qu'il y a des tas de comédiens qui sont subventionnés, qui sont toujours subventionnés, que personne ne connaît et qui ont bien plus de talent que moi. Pourquoi tout à coup on devient vedette ? C'est vraiment le hasard, la chance, mais la chance, quoi. Tout à coup, vous avez un rôle qui vous correspond, le film marche, et puis voilà. Mais vous pouvez faire 50 films qui ne marchent pas et vous serez toujours.
Oui, mais vous la provoquez, la chance, avec du talent quand même. C'est pas que de la chance.
Je la provoque en disant oui. Non, mais il y a peut-être du talent.
C'est le fameux oui.
Encore une fois, quelqu'un comme Philippe Clévenot, qui est mort depuis un certain temps, c'était le plus grand comédien français de théâtre. C'est lui le premier qui a eu un Molière. C'est les années 75, 76, je ne sais plus, enfin bon. 85, 86, pardon. Et bien personne ne connaissait cet acteur, alors que il était immense. Voilà. Et il y a plein de comédiens, notamment français maintenant, qu'on ne connaît pas et qui sont sublimes. Le petit Jérémy Lopez qui joue dans le film,
qui est formidable.
Qui joue un de mes fils, c'est un acteur de la comédie française, il est exceptionnel, quoi. Et j'espère qu'il va faire carrière. Mais à un moment donné, quand on fait le choix du théâtre, c'est vrai que bah, le cinéma vient un peu moins rapidement.
Voilà. Elle aussi, François Berléand, elle est une des plus grandes journalistes françaises, mais personne ne le sait encore. C'est Laure d'Autriche.
Oh.
Laure, certains sont excités par la sortie d'un nouvel album ou d'un film. Vous, c'est la présentation d'un super calculateur qui vous met dans tous vos états.
Alors, c'est vrai, parce que c'est demain une machine qui est inaugurée par le CNRS à Saclay, en région parisienne, et qui est ultra puissante. C'est une nouvelle machine qui va permettre de faire, écoutez bien, 16 millions de milliards d'opérations par seconde, soit la puissance de 40 000 ordinateurs. Alors cette machine, ce super ordinateur en quelque sorte, il est indispensable aujourd'hui à la recherche française et il va servir à tous les domaines de la recherche. Les sciences du climat, de l'environnement, l'astrophysique, la santé aussi. Par exemple, lorsque vous avez dans le domaine de la santé des maladies, il va permettre ce super ordinateur d'analyser, de prévoir la transformation des molécules dans le cerveau ou dans des virus. Donc de prévoir ce qui va se passer de façon très précise. Quand vous avez dans le cerveau des zones qui sont infectées, quand vous fumez ou quand vous buvez beaucoup de café, et ben avec cette machine, on va mieux comprendre l'impact de ces substances, comment elles vont évoluer. Et grâce à ça, on peut concevoir des médicaments, par exemple, contre les dépendances. Donc cette machine ultra puissante va vraiment faire progresser la recherche d'une façon considérable. C'est une machine qui coûte 25 millions d'euros et qui est financée par l'État.
Et ça ressemble, physiquement, elle ressemble à quoi cette machine ?
Alors, c'est étonnant parce que visuellement, c'est pas du tout spectaculaire. Vous êtes dans une grande salle que j'ai visitée. Vous avez des énormes armoires noires avec des centaines de câbles d'ordinateurs, des processeurs, des disques de stockage. Mais ce super ordinateur, justement, va imaginer de nouveaux algorithmes, résoudre aussi des mystères, et c'est très attendu de ce point de vue par les chercheurs. C'est capital aujourd'hui parce que, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, vous savez, il y a 4 ans, quand un ordinateur a battu le champion du monde du jeu de Go,
ah oui, ça a été un événement, ça.
Voilà,
oui.
Cet ordinateur a réussi à battre le champion du monde parce que l'entreprise qui l'a conçu disposait de la puissance de calcul de Google. Et c'est ça, avec cette machine, la France a une puissance de calcul vraiment fondamentale et ça va être indispensable pour notre pays. Oui.
Alors justement, la France, elle est bien placée dans ce domaine des calculs ultra puissants et de l'intelligence artificielle ?
Pas vraiment, justement. Les premiers, on est loin derrière les États-Unis et la Chine et la compétition est terrible au niveau mondial. C'est pour ça que la France doit rattraper son retard et elle espère le faire avec cette machine. Aujourd'hui, très clairement, c'est ce que m'ont dit tous les scientifiques que j'ai rencontrés, les avancées scientifiques se font au rythme de la progression de ces super ordinateurs, grâce à l'accroissement de la puissance qu'ils proposent. Donc cette machine, elle est classée parmi les 50 premières machines mondiales, mais imaginez, parmi les 500 machines les plus puissantes, la Chine en possède la moitié. C'est dire à quel point elle a une avance considérable, mais ce petit bijou, en tout cas, va aussi peut-être permettre d'éviter la fuite des cerveaux des chercheurs français, parce qu'on est face à une fuite des cerveaux aujourd'hui, et des chercheurs me disaient, ceux qui n'avaient pas les moyens de travailler aujourd'hui en France, qui ont besoin de faire des calculs ultra performants, partaient à l'étranger. Grâce à cette machine, ils vont peut-être être davantage incités à rester en France, travailler ici.
Si nos amis chinois disposent de supercalculateurs de ce genre, pourquoi ils ne mettent pas le coronavirus qu'ils ont trouvé là-bas dans cette machine pour nous dire comment il va évoluer et éventuellement trouver un remède ?
Oui, la question se pose.
Il faudrait leur suggérer à vos amis chinois. On peut les appeler.
Merci. Oui, parce qu'ils jouent bien du violon.
Merci, Laure d'Autriche. Votre supercalculateur aura-t-il fasciné ou pas notre invité ? La France ne va pas tarder à le savoir.
Europe 1.
Et justement, chaque jour aux alentours de 6h15, la France n'a pas peur, mais la France à faim. Pour vous souffler une recette de dernière minute alors que votre inspiration culinaire est au point mort, il y a heureusement notre expert gastronomique Olivier Pouls, un rire raffiné et surtout un savoir encyclopédique puisque chacune de ces recettes est précédée d'un topo historique des plus pointus comme la fois où il nous avait parlé de la poule au pot.
Et c'est un plat traditionnel qui remonte à bien longtemps.
Mais que reste-t-il à Alain Decaux ? Olivier Pouls arrive.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Chacun pour soi et tous contre un est notre devise. Elle brille désormais au fronton de notre studio, l'équipe est sauvage, la compétition sans pitié qui oppose chaque après-midi les journalistes d'Europe 1. Fête ce soir sa 100e, 200 heures de scoop.
Alors c'est quoi un musicien de studio ?
C'est un musicien qui joue dans un studio.
Voilà.
200 heures de scoop, 200 heures émaillées aussi de confessions d'acteurs.
Non, moi j'ai baisé toutes les autres actrices, mais pas elle.
200 heures de coups de foudre entre Eva et l'invité.
Et c'est vrai qu'il voulait qu'on se mouche ensemble.
Et vous l'avez fait.
Et on l'a fait.
Pour marquer le coup, pour fêter ce 100e numéro, qui pouvions-nous rêver de mieux que François Berléand, Eva ?
Nick Rivers.
Oui, mais il n'était pas dispo. François Berléand, j'invite nos auditeurs à vous découvrir dans l'esprit de famille en salle mercredi prochain, puis en chair et en os au Théâtre Antoine, dans 33 jours exactement, on l'a dit, avec François-Xavier de Maison. Alors, il paraît que vous êtes un farceur, François, au théâtre. Alors, je ne sais pas cette anecdote, si elle est vraie, mais vous avez dit dans une interview que lors de la dernière représentation d'une pièce dans laquelle jouait un de vos très bons copains, vous avez placé un coussin péteur sur le canapé. Lorsqu'il s'est assis, vous l'avez actionné avec une télécommande. Est-ce que c'est vrai ?
C'est vrai, mais je ne jouais pas dans la pièce.
Vous étiez dans le public ?
Oui. Dans le public.
Mais encore
j'avais la télécommande, oui. Donc, non, c'est pas le coussin péteur, c'était la petite boîte.
Ah oui, c'était la petite boîte. Oui, mais petite donc, bague, mais l'effet est le même.
Ah, l'effet
mais comment ça s'est terminé ?
Bah, ça s'est terminé. Moi, j'ai beaucoup ri. Le public aussi. Et l'autre était. C'est-à-dire qu'ils se sont regardés qui a pété. Les deux sont regardés. Qui a pété mais... Donc, ils se sont regardés comme ça. Donc, ça s'est terminé. Moi, j'ai rien dit.
Mais ils savaient que vous étiez dans la salle.
Vous n'avez rien dit.
J'espère qu'ils n'écouteront pas, les deux, là.
Là forcément ils vont se reconnaître, ça doit arriver rarement que ce genre d'incident.
Oui, mais sur le coup,
vous auriez réagi comment vous, si on vous l'aviez fait sur scène, il se passe ça.
Pareil. Non mais après c'est terrible parce que c'est ça fait rire. Mais je l'ai pas fait qu'une fois. Je l'ai fait aussi sur scène. J'ai une pièce qui s'appelait Moi et François B. C'était en tournée. C'était pas la dernière, mais une semaine. C'était en Belgique et je voulais absolument parce que elle marchait plus là, celle que j'avais. Et en France, ils ne vendent plus. Enfin, etc. Et donc, en Belgique, par contre, ils vendent parce qu'ils sont farceurs.
Ah, évidemment,
les Belges,
évidemment.
Et donc, j'ai acheté la machine. Et à un moment donné, c'était avec Sébastien Castro. Il me dit, est-ce que je peux me laver les mains pour aller justement aux toilettes ? Donc, il passe devant moi. Et je lui dis, c'est là, c'est la première à gauche. C'est là. Et j'appuie sur la truc. Et je fais, ah oui, en effet. Et là, tous les partenaires étaient mais morts de rire. Là, on a eu beaucoup de mal. Non, c'était la fin de la pièce, mais on a eu beaucoup de mal.
Oui, il ne faut pas le faire la première, quoi. C'est plutôt un gag de fin de pièce.
Non, mais moi, j'ai horreur des blagues de dernière. C'était avant, ça se faisait beaucoup. Maintenant, ça ne se fait plus du tout. Mais une blague de première, c'est impossible.
Non, ça, c'est pas possible.
On est comme ça, on ne peut pas.
Je dis, méfiez-vous pour le 25 février. Je serai dans la salle. Peut-être avec un boîtier. François Berléand, on l'a dit, vous êtes un bon vivant. Vous aimez aussi, je crois, le vin.
Ah oui. Mais non, mais c'est affreux parce que, évidemment, il oui. y a une bouteille qui est là, il y, oui. y en a un peu dans le verre et il est exceptionnel.
Alors ça tombe bien, cette passion pour le vin, parce que j'ai pour vous une sorte de cadeau vivant, François Berléand. Je n'ai pas eu le temps de l'emballer, en même temps il aurait fallu 17 rouleaux de papier cadeau, mais j'espère qu'il vous fera plaisir. Voici Olivier Pouls. Personnage béruréen, tout droit sorti d'un roman de San Antonio, il doit sa survie à une anomalie physiologique, un double foie, qui lui rend le vin aussi indolore que pour nous la Salvetta. Rédacteur en chef de la revue du vin de France, c'est aussi un fin gourmet qui chaque jour nous livre une recette de dernière minute pour épater nos proches. Où va-t-il chercher son inspiration culinaire ? Et ça par exemple, comment vous avez eu l'idée de mettre des zestes d'orange dans du houmous ?
Tout simplement parce que dans ma cuisine tout à l'heure, j'avais une orange et j'avais le houmous.
C'est juste le hasard de la vie en fait.
Qu'est-ce que je pourrais bien faire ?
Quel génie.
Heureusement qu'il n'était pas aux toilettes. Hein.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis, bon anniversaire, bonne centième. Bonjour François Berléand, je suis ravi de vous voir.
Ben moi aussi.
Je suis ravi de partager du coup la bouteille.
Alors,
de la centième avec vous.
Expliquons à nos auditeurs, aujourd'hui comme c'est la centième et comme c'est François Berléand, vous avez mis de côté la dimension économique de la rubrique Délices in Extremis. Aujourd'hui on craque complètement.
Mais écoutez, pendant 99 numéros, j'ai essayé de compter les sous à chaque fois.
Vous avez donné dans l'abordable.
Voilà exactement, et je me suis dit, allez aujourd'hui, on va se lâcher, on va boire un coup pour évidemment fêter cette centième, c'est presque l'heure de l'apéro quand même, bien sûr. Et puis on va offrir un petit produit qui paraît très cher, mais qui en réalité ne l'est pas tant que ça en fait. Et ce que je vous ai préparé pour accompagner cette magnifique bouteille de Pomerol, la conseillée en 2015, délicieuse n'est-ce pas ?
Oui, impeccable. Et par contre, alors, oui, il y avait un petit cadeau avec la bouteille.
Ah ben oui, alors il y avait la recette du jour, et pour accompagner ce Pomerol, parce qu'un des beaux mariages avec le Pomerol, c'est la truffe. Alors c'est vrai que la truffe, dit comme ça, tout le monde pense que c'est hors de prix, en ce moment c'est autour de 800-850 euros le kilo. Ça a quand même beaucoup baissé depuis les fêtes. Et il faut savoir que la vraie saison de la truffe,
bon
c'est maintenant.
Donc on est en pleine saison et c'est le moment où c'est le moins cher.
C'est janvier, février, vraiment.
Voilà, exactement.
Donc là, si y a un moment pour se faire plaisir, c'est maintenant.
Bah oui,
c'est
parce bon que ça. Vous savez, la truffe, je vous répète, 850 euros le kilo, mais on n'en mange pas un kilo.
Non, on en mange
honnêtement,
quelques grammes.
Avec une truffe de 50 grammes, vous faites un repas pour 4 personnes. Là, je vous ai fait... De façon extrêmement simple, je trouve une des meilleures manières d'exprimer la truffe, c'est un beurre de truffe. Il y a 20 grammes de truffe. Donc 20 grammes de truffe, il y en a pour 15 euros à peu près. Il y a 40 grammes de beurre ramolli. On mélange les deux, on malaxe bien le tout, on laisse reposer pendant 12 heures dans le frigo de manière à ce que le beurre s'imprègne bien des arômes de la truffe. Et puis il n'y a plus qu'à tartiner tout simplement ce beurre sur des petits morceaux de pain, ce que je vous ai fait. et vous avez vraiment pleinement les saveurs de la truffe. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre votre petite truffe et vous laisser 24 heures dans un bocal avec des œufs. Les œufs ont la coquille poreuse, le jaune est gras.
Que ah, les œufs ont la coquille poreuse.
Et donc, l'œuf a la coquille poreuse, oui.
Je ne savais pas ça.
Et le gras du jaune va capter les odeurs de la truffe. Et en 24 heures, vous aurez des œufs qui seront naturellement parfumés à la truffe sans même l'avoir utilisé. Donc vraiment, il y a plein de choses à faire. La truffe, ça paraît cher, mais honnêtement, il faut l'avoir goûtée une fois dans sa vie. En ce moment, elle est à peu près abordable. Une fois encore, pour une dizaine d'euros par personne, on peut vraiment faire un repas fantastique.
Quand on n'y connaît rien, pour la sélectionner, la truffe, comment on sélectionne la truffe?
Alors, la truffe, il faut savoir que... il y a une variété de truffe qu'il faut absolument sélectionner, c'est la Tuber Menalosporum. C'est la vraie, c'est la truffe noire du Périgord. La France, vous savez, il y a une bonne centaine d'années, en produisait 1000 tonnes par an. Aujourd'hui, on est tombé à 50 tonnes seulement.
Oula.
Et oui, et aujourd'hui, ce sont les Espagnols qui nous talonnent en termes de production de truffes, les Italiens aussi. Mais il faut donc véritablement une Tuber Menalosporum. On l'achète fraîche, bien sûr, et on n'achète surtout pas tous les produits aromatisés à la truffe,
c'est votre,
etc.
C'est votre grand dada.
C'est mon combat.
Pas d'huile de truffe.
Non, parce qu'en général, dans 99% des cas, que ce soit des moutardes, des huiles, des chips, tout ce que vous voulez, même des fromages, ce sont des arômes. Ce sont des arômes de truffe qu'on a mis dedans et ce n'est pas la vraie truffe naturelle.
Olivier de Pouls, on vous remercie. Vous allez sortir du studio pour nous ramener encore un petit peu, pour nous rapporter des tartines.
Il y a des noix de cajou aussi et la truffe.
Oui, mais ça n'a aucun intérêt.
Si c'est bon, moi je suis d'accord avec François.
Moi je suis désolé.
C'est très très bon. Quand vous êtes dans l'apéro, que les copains ont pensé à prendre ça, c'est très très bon.
Mais moi je garde mon beurre de truffe et je vous laisse les noix de cajou.
Non, mais d'accord. Non, mais attendez, on est bien d'accord.
Ne vous battez pas.
Mais, pour amener un peu de beurre de truffe. Ouais,
Merci Olivier, en tout cas, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des très bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe.
Europe 1.
Le suspense, les amis, est à son comble. Qui sera élu chroniqueur du jour parmi les quatre gugus que vous avez entendus? Vous avez voté via Twitter. Quant à notre invité d'honneur, François Berléand, dont la voix, je le rappelle, va compter sextuple aujourd'hui, il mûrit son choix. Laissons-le se concentrer encore quelques instants.
Me masturber, ça m'aide pour me concentrer. Ouais. C'est ma méthode.
Oui, mais vous vous concentrez comme vous voulez, François, tant que vous arrivez à une décision. A tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Au moment de vous quitter, en cette journée particulière, puisque c'était, vous le savez, la 100e de l'équipe est sauvage, j'aimerais citer le poète. C'est en se retournant sur le chemin parcouru que l'on féconde par la force du souvenir l'embryon de l'avenir qu'on se souhaite.
Goethe !
Non, Jean-Claude Van Damme, Mortal Kombat 4. Et c'est l'heure du dénouement dans cette 100e. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Qui repartira avec la couronne de vainqueur sur la tête sous les vivats de ses collègues et de notre invité François Berléand ? Qui, au contraire, aura pour gage de faire trois fois le tour de la rédac à cloche-pied avec un slip sur la tête ?
Alors, pas n'importe quel slip. Hein. Oui. Il faudra qu'il soit blanc,
oui, on s'en fout.
Bio.
Oui, on s'en fout, Anne. Nous discuterons des modalités dans un deuxième temps. Pour l'heure, procédons au vote avec d'abord le qui tout double. Anne Le Gall, justement, pourquoi François Berléand devrait-il voter pour vous ?
Alors, vous commencez toujours vos phrases par oui, donc vous pouvez dire oui au documentaire animalier parce qu'il nous aide à nous émerveiller, puis s'émerveiller c'est prendre soin du monde.
S'émerveiller, je vais réfléchir à ça. Sophie Larmoyer, pourquoi voter pour vous aujourd'hui ?
Eh bien parce que je m'adresse à un comédien et donc qui est porteur de toutes ces valeurs que porte l'art en règle générale. Vous savez, c'est Stéphane Hessel qui disait « Créer, c'est résister, résister, c'est créer ». En s'attaquant au monde de la culture, le gouvernement brésilien d'extrême droite sait qu'il s'attaque finalement à un bastion de résistance face à la propagande. C'est assez important, non ?
Je ne sais pas si c'était la meilleure chronique, mais c'était la meilleure plaidoirie, en tout cas. Ouais. Sophie Larmoyer, bravo. Fred Coati, pourquoi voter pour vous ? À part le pot de vin que vous avez offert à notre invité, évidemment, la BD.
Aucun pot de vin. Alors, avec seulement deux doigts, Django faisait tomber la foudre sur le manche de sa guitare. Moi, avec mes 10 petits doigts gourds, j'ai rédigé une chronique. Bon, mais au moins, j'espère qu'elle vous a donné envie de lire cette bande dessinée. Django, main de feu. Votez pour moi.
Lui, il joue avec l'émotion maintenant, n'importe quoi. Laure d'Autriche, pourquoi voter pour vous aujourd'hui ?
Alors, je me dis que c'est quand même assez fascinant d'imaginer que ce super ordinateur inauguré par le CNRS va permettre des avancées scientifiques pour la recherche française. Et voilà, de voir techniquement ce qui va être possible dans les années qui viennent, c'est fascinant, non ?
Et surtout que ça va permettre de damer le pion aux Chinois. Rappelons-le, merci Laure d'Autriche. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, je dois vous dire que les quatre journalistes ont obtenu tous plus de 20%. Ça, c'est entre 23 et 27% chacun. Donc, pour vous dire à
quel point c'est serré. Et c'est Lord d'Autriche qui remporte les deux points des auditeurs.
Une machine à gagner, cette Lord d'Autriche. Oui, oui. Alors, pour ma part, j'ai un petit point qui ne va pas changer grand-chose aujourd'hui. À qui vais-je le donner ? Je vais le donner à Sophie Larmoyer, car j'ai trouvé sa chronique fort intéressante.
Mathieu.
Et sa manière de la vendre à l'instant, excellente aussi. Mais vous le savez ici, c'est l'invité qui a le dernier mot. Un dernier mot à 6 points, exceptionnellement ce soir pour fêter la centième. François Berléand, qui selon vous mérite d'être sacré chroniqueur du jour ? Il y en a un qui a dit la BD qui va vous
appeler. Ah oui, c'est ça. Alors évidemment, je suis un homme vénal. On le sait, tout le monde le sait. Donc évidemment,
Les valeurs de l'art.
Voilà, on est bien d'accord. Normalement, on ne m'aurait pas offert la BD. J'aurais évidemment voté pour vous parce que la culture, c'est important, etc.
Mais il n'y avait rien de. Mais il n'y avait pas de cadeau, il n'y a pas de rétribution.
Il y avait rien.
Voilà.
Après, j'aurais voté. Pardon, pas pour vous.
Pouls n'est pas en compétition. Bah, c'est ça, c'est avec de la truffe et de la conseillante. Donc
il est arrivé quand même avec de la conseillante et des truffes. Les maths, j'ai toujours eu zéro en maths. Je suis désolé. Donc ça, la compétition est très forte entre vous deux. Parce que quand même,
entre Sophie Larmoyer et Fred Boëti.
Voilà, je suis assez engagé. Et puis, bon, enfin qu'on puisse. Alors c'est vrai que j'ai. Je vous mettrais bien à égalité, mais il y a le livre.
Il y a le livre,
c'est ça. Il y a le livre. Mais il est là, le livre. Alors est-ce que.
Ah.
Oui, il est là, je l'ai volé. Donc, comme je suis un enfoiré, voilà, j'ai pris le livre et je vote pour vous.
Pardon. Parce que Sophie Larmoyer, qui vous parle de la centième édition de l'équipe sauvage. Ah là là, quel ascenseur émotionnel pour Fred Boëti. C'est terrible. C'était la centième, les amis de l'équipe sauvage. On remercie très chaudement notre invité François Berléand. Au cinéma la semaine prochaine dans L'Esprit de Famille d'Éric Bénard et le 25 février au Théâtre Antoine dans Par le bout du nez avec François-Xavier de Maison. Merci mon cher François d'avoir fêté cette centième avec nous. On était vraiment heureux de vous avoir aujourd'hui.
Merci.
Et merci également à mes équipiers du jour, Eva Rock, Lord d'Autriche, Anne Le Gall, Sophie Larmoyer, Fred Boëti et l'inénarrable Pouls. L'équipe sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changé avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à votre équipée sauvage. Demain c'est vendredi et vendredi c'est en public. Et vous recevrez l'actrice Isabelle Carré. Belle soirée à vous Mathieu.